Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue sur Radio Galère au 88.4. Vous écoutez l'émission de la Forêt des Possibles en partenariat avec Écoforum et nous sommes le mercredi 27 novembre. Semaine après semaine, nous recevons à notre micro celles et ceux qui font les transitions écologiques et sociales à Marseille et à ses alentours. Issus de tous les secteurs et de tous les horizons, nos invités racontent leur parcours, leurs expériences ou encore leurs états d'âme. En découvrant leurs engagements et leurs projets, nous tissons les liens entre les initiatives du territoire. Seuls, ils seraient comme des arbres isolés. Ensemble, ils forment une grande forêt qui chaque jour s'enracine, pousse, donne du fruit et montre la voie d'une société résiliente, créative et solidaire. Chères auditrices, chers auditeurs, l'émission de la Forêt des Possibles est une grande invitation. Nous pensons que vous aussi, vous avez votre juste place à prendre, du moi au nous et du nous au tout, dans une société qui respecte les besoins humains et les ressources de la planète. À ce micro, nos invités témoignent qu'il est possible de bâtir collectivement le monde de demain. Je m'appelle Claire Maillot, ce soir accompagnée en régie de Marin Moffret.
Bonsoir à toutes et tous.
De Jeanne Ray.
Bonsoir.
Et de Mathieu Cheminal.
Bonsoir à tous.
Et ce soir, nous allons parler avec l'équipe de Pape Fier. J'ai l'honneur de recevoir ce soir Robin.
Bonsoir.
Nour.
Bonsoir.
Léa.
Bonsoir.
Et Maëlle.
Bonsoir.
Vous l'auriez compris, ce soir nous sommes très nombreux, nombreuses dans le studio de Radio Galère et ça fait plaisir de se retrouver tous ensemble. Donc ce soir nous allons parler d'épanouissement des jeunes LGBTQIA+. Et avant d'aller dans le vif du sujet, est-ce que vous pouvez chacun, chacune vous présenter individuellement quel est votre parcours, d'où venez-vous et qu'est-ce qui fait que vous vous êtes engagé au sein de l'association Pape Fier ? Qui commence ?
Je peux me lancer. Bonsoir tout le monde. Du coup, je m'appelle Léa. Je suis chez Pape Fier maintenant depuis près de au moins 2 ans, je dirais. Et donc, je suis à Marseille depuis presque une dizaine d'années. Je me suis engagée dans l'association, notamment parce que j'ai découvert l'association à travers d'un ami. En fait, ça m'a tout de suite parlé et j'avais très envie de rencontrer ces jeunes. Donc on vous parlera un peu plus tard de l'association plus en détail, mais et de pouvoir échanger avec eux aussi parce que je pense que j'ai... Donc moi-même, je suis bisexuelle, ou je dirais plutôt d'ailleurs pansexuelle. Et du coup, j'avais... Voilà, dans mon parcours de vie, j'ai eu de la chance d'avoir un parcours assez doux. Et du coup, oui.
Petite question pour nos auditeurs, auditrices qui n'auraient jamais entendu le terme pansexuel. Est-ce que tu peux le définir ?
Oui, c'est que je suis attirée par tout type de personnes, peu importe leur genre.
D'accord. Voilà. Merci.
Voilà. Et du coup, ça m'a semblé assez naturel en fait de rejoindre l'association et de pouvoir mettre mon temps personnel, pour l'asso et pour ce qu'elle défend, ce qu'elle porte, et d'aller à la rencontre de ces jeunes.
Parce que du coup, on viendra plus en détail sur le fonctionnement de l'association, mais vous êtes tous et toutes bénévoles. Vous avez donc des activités professionnelles à côté. Est-ce que je peux te demander ce que tu fais dans la vraie vie ?
Alors maintenant, j'aime bien me qualifier de chômeureuse.
Okay. Contraction habile entre chômeuse et heureuse.
Voilà, c'est ça. mais avant ça, j'étais déjà dans l'associatif, dans une autre ONG qui travaille sur l'environnement.
D'accord. Voilà. Mmh. Et c'est formidable d'avoir un système qui nous permet d'avoir du temps libre à donner à des associations. Donc bravo pour ton engagement. Merci Léa. Qui prend la suite ?
Je peux y aller. Donc bonsoir tout le monde, merci de nous accueillir sur ce plateau. Donc moi je m'appelle Robin, j'ai 33 ans, j'ai grandi dans un petit village à côté de Toulon. J'ai beaucoup milité dans ma jeunesse, mes jeunesses, mais toujours un peu éloigné des questions LGBTQIA+, pour la bonne raison que j'étais le seul à savoir que j'en faisais partie. C'était quand même un secret bien gardé pendant des années et des années. Et une fois que j'étais out, donc c'est-à-dire qu'une fois que mes proches, mes amis, ma famille ont su que j'étais gay, là, j'ai pu m'investir pleinement dans l'association Pape Fier qui favorise l'épanouissement des jeunes LGBTQIA+. Donc voilà, c'est un peu pour ça, c'est à la fois un lien entre une histoire personnelle et l'envie aussi de pouvoir discuter avec les jeunes d'aujourd'hui dans les collèges, dans les lycées marseillais de ces questions-là, parce que ça m'aurait aussi bien aidé à mon époque.
Et même question, est-ce que je peux te demander ce que tu fais dans la vraie vie à côté ?
Oui, bien sûr. Alors, je suis enseignant à l'université d'une part et formateur aussi pour des ONG à l'étranger, plutôt sur des questions humanitaires.
Ok. Voilà. Donc aussi au contact des publics scolaires.
En partie, oui.
En partie. Ok, merci. Justement, puisqu'on parle de scolaire, je me tourne vers toi, Nour. Oui. Est-ce que tu veux bien prendre la suite ?
Oui, donc je m'appelle Nour, je suis marseillaise et donc j'enseigne le français dans un collège du 15e arrondissement de Marseille. Et donc le déclic, c'était de venir en aide à des élèves à moi qui étaient victimes de harcèlement, d'homophobie dans mes classes. Donc voilà, je connais l'asso par Robin et donc j'ai demandé à l'association d'intervenir l'an dernier et j'ai rejoint l'association en septembre. Dans le but de moi aussi intervenir plus tard dans les classes.
D'accord. Ok, ouais. Est-ce que je peux te demander ce que tu enseignes à l'école ?
Le français.
Ok, donc professeur de français dans le 15e, tu nous
C'est
as dit.
C'est ça.
Ok, super, merci beaucoup Nour. Et enfin, Maëlle.
Rebonsoir. Moi, je suis arrivée à Marseille récemment. J'ai 23 ans et je viens de sortir de mes études. Actuellement, je suis technicien du son. Ok. Et pour ce qui est de mon lien avec la communauté LGBT, moi ça fait depuis le collège, en fait depuis que j'ai pris conscience de l'existence des genres et que j'ai fait face à cela, c'est vrai que ça a été dès le début en fait un questionnement et je me suis rendu compte que j'avais un vécu et une expérience assez particulière et minoritaire en fait. Avec ça et à l'époque je savais pas comment ça s'appelait, je connaissais personne et donc petit à petit j'ai pris conscience de plein de choses et donc là j'ai rejoint l'association en septembre parce que je savais en fait que j'allais rejoindre des personnes géniales et engagées en fait avec qui j'allais bien m'entendre. Mmh. Et aussi c'est une association qui comme on l'a dit, qui est pour l'épanouissement des jeunes LGBT mais qui est aussi dans une dimension assez intersectionnelle, donc qui prend aussi en compte toutes les discriminations. Mmh. Et moi, je trouve ça extrêmement important. J'ai notamment vécu du harcèlement en étant au collège, et je ne sais toujours pas pourquoi. Mmh. Et donc, ça, c'est assez important d'en parler, parce que c'est quand même des parcours de vie difficiles pour les jeunes. Mmh. Donc voilà.
Oui, les sujets de harcèlement scolaire, j'imagine, sont assez liés avec les sujets que vous pouvez être amené à traiter lors de vos interventions. Et voilà, j'en ai déjà trop dit sur qu'est-ce que vous faites chez Pas Peu Fière. Est-ce que vous pouvez, me présenter l'association ? Je laisse la parole à Robin.
Oui, alors en amont de la présentation de nos actions au quotidien dans les collèges et les lycées marseillais, on souhaitait aussi insister sur nos valeurs. Ce socle commun un peu dont Maëlle a parlé. Donc à la base, effectivement, nous, ce pourquoi on fait ce qu'on fait, c'est pour l'épanouissement des jeunes LGBTQIA+. Donc c'est pour qu'ils se sentent mieux dans leur peau, mais qu'ils soient aussi en capacité d'être heureux. Hier, dans une intervention dans le 12e, il y avait un jeune qui me disait « je suis fier d'être heureux ». Bah là, on a un exemple concret, finalement, de ce que ça peut être l'épanouissement des jeunes LGBTQIA+. Alors, parler de ces sujets, c'est pas forcément parler seulement avec les premières et les premiers concernés, c'est parler avec toutes les classes, donc aussi avec les jeunes qui s'identifient comme hétérosexuels. Et c'est l'enjeu un peu de notre association, c'est de pouvoir intervenir en milieu scolaire dans les collèges et lycées marseillais. Mmh. Et avant peut-être d'expliquer ce qu'on fait dans ces interventions, rappeler un peu les valeurs, effectivement, dire aussi que... Pour nous, la lutte contre l'homophobie, contre la transphobie, c'est vraiment en lien avec d'autres formes d'oppression, le racisme, le validisme, le sexisme, bien évidemment, et que tous les bénévoles qui font partie de cette belle équipe de Pas Peu Fière, ils adhèrent aussi à ces valeurs. Et mmh. c'est notre socle commun, et c'est très important de le rappeler ce soir.
Okay. Et justement, vous êtes combien de bénévoles au sein de l'asso ?
Je dirais une trentaine et on est à peu près une dizaine d'intervenants. Mmh. Actifs. Et oui, et en effet, on est tous bénévoles, donc on essaye tous de s'investir à la hauteur de du temps qu'on a à y consacrer. Donc voilà, mais c'est une super chouette équipe On fait régulièrement des apéros rencontres et notamment aussi des séminaires avec lors desquels on va travailler sur vraiment sur le contenu, comment on travaille en intervention, etc. Parce qu'on est toujours dans une recherche d'amélioration de nos pratiques. Mmh. Et c'est des moments super chouettes où on se rend compte et on va vraiment aller au cœur des sujets, comment on gère certaines problématiques qu'on rencontre, etc. Et c'est super enrichissant. Moi, je trouve ça trop chouette.
J'ai l'impression que c'est au-delà de ce que vous pouvez partager en termes de valeurs, c'est aussi des amitiés qui se sont créées. Enfin, en tout cas, c'est l'impression que vous dégagez. J'ai l'impression que vous êtes un groupe assez uni. Ce qui est d'autant mieux pour travailler ensemble de façon bénévole comme vous pouvez le faire. Donc c'est très précieux d'avoir ces liens solides. Moi, je voulais vous poser aussi la question de nous décortiquer un peu le nom de l'association qui est Pape Fier. Fier donc au féminin, si je ne m'abuse. Il n'y a pas de point médian. Donc j'imagine que ça fait écho à la marche des fiertés, à la Pride. Est-ce que vous pouvez nous expliquer le choix de ce nom?
C'est vrai que c'est rigolo que tu nous retournes la question, parce que nous, on la pose souvent en début d'intervention, justement, aux élèves. Et on leur demande de définir ce que c'est. Déjà, pas peu fier, cette double négation, en fait, c'est dire qu'on est très fier de quelque chose. C'est une expression marseillaise, donc c'est aussi pour ça qu'on a choisi cette expression-là. Et en fait, c'est vrai que ça permet d'aller sur la thématique de la fierté, ce que c'est la fierté. Pour les jeunes, c'est pas toujours facile de définir ce que c'est la fierté, mais en tout cas, c'est quelque chose ils vont donner des exemples. On peut être fier de ce qu'on est, on peut être fier de ce qu'on fait, on peut être fier de quelqu'un d'autre, on peut être fier de soi. Ça s'oppose aussi à un sentiment parfois de l'opposé, ce serait la honte ou. Mm-hmm. Et du coup, dans la fierté, souvent, ça nous permet aussi de rebondir sur le fait que parfois, justement, des peuples qui ont des personnes qui ont été opprimées pour différentes raisons, vont tirer de la force justement dans ces oppressions, ces blessures passées pour porter des choses ou s'engager de manière militante, etc. Et en fait, vont tirer de la force et du coup une fierté. Et donc c'est vrai que ça nous permet souvent d'enchaîner sur ce type de sujet avec les jeunes.
J'ai bien fait de poser cette question alors que je ne savais pas que vous commenciez vos interventions de cette façon. On a défini le terme fierté. Moi, il y a un autre terme que sur lequel j'aimerais qu'on s'attarde. C'est le mot épanouissement. Quand tu m'as présenté l'asso pour la première fois, Léa, tu m'as dit que c'était une asso qui visait à accompagner les jeunes LGBT dans leur épanouissement. Est-ce que quelqu'un pourrait me partager sa vision de ce mot? Le définir, qu'est-ce que ça vous évoque?
Moi, je peux commencer juste. Ça m'évoque le fait d'être à l'aise avec qui on est. Donc, qui on est par rapport à notre genre, par exemple, qui on aime, vers qui on est attiré de façon amoureuse ou sexuelle. Et je pense qu'on peut n'être qu'épanoui si on est à l'aise avec ça. Et j'ai envie de dire, le but de l'asso, il est aussi lié à ça, c'est comment on est capable de permettre à tous les jeunes, en fait, Marseillais et Marseillaises, de pouvoir explorer de façon apaisée leur identité, de qui on est, de qui on aime. Donc si je devais résumer un peu l'épanouissement de la jeunesse, des jeunesses marseillaises et marseillais, ce serait principalement ça, et en particulier sur les sujets qui nous rassemblent aujourd'hui, donc les orientations sexuelles, amoureuses et les identités de genre.
Identité de genre, donc ça c'est un terme personnellement je ne le connaissais pas il y a 10 ans, c'est vraiment au fil des dernières années qu'on s'est vraiment posé, je dirais pas qu'on s'est posé la question dernièrement, parce que j'imagine que des personnes concernées se posent la question depuis des années et des années, si ce n'est même des siècles. Est-ce qu'on pourrait peut-être définir un peu ce qu'elles sont ces termes d'identité de genre, d'orientation sexuelle ou amoureuse, peut-être pour nos auditeurs, auditrices qui ne connaîtraient pas du tout le sujet?
Ouais. Du coup, c'est vrai que souvent, justement, on va définir avec les jeunes les différentes lettres de LGBTQIA+. Mmh. Et ça nous permet de rentrer sur le sujet de LGBT, ce sont des orientations sexuelles ou des orientations amoureuses. Donc, en gros, de qui on est attiré amoureusement ou sexuellement. Et du coup, lesbienne, de femmes qui s'aiment, gay, de gars qui s'aiment. Et bisexuel, c'est du coup l'attirance pour les deux genres, ou en tout cas plusieurs genres. Et oui, voilà, sur les trois orientations sexuelles des trois lettres. Enfin, on parle aussi de asexuel, aromantique. Ça, on le rappelle souvent aussi, le fait qu'en fait, il n'y a pas d'obligation aussi d'avoir une attirance romantique ou amoureuse ou sexuelle vis-à-vis de quelqu'un. Donc ça, souvent, c'est intéressant et ça suscite la curiosité des élèves. Donc ça, c'est plutôt sur les orientations sexuelles et amoureuses. Et ensuite, sur l'identité de genre, c'est vrai qu'on... Je ne sais pas si je peux peut-être laisser le micro à quelqu'un d'autre, mais du coup, oui, on parle en tout cas aussi du genre, et notamment de l'assignation au genre à la naissance. Oui.
Et après, si on cherche à définir les identités de genre, en soi, c'est une question très complexe parce que c'est lié à l'identité de chacun et aussi au ressenti de soi, à plein de choses. Mais c'est vrai qu'en soi, on peut, pour les personnes trans en tout cas, et le terme trans, c'est un peu un terme parapluie en fait, qui englobe plein d'identités. Et donc, il y a les transitions vers un autre genre, parce qu'on ne correspond pas à son genre, mais aussi... Cet autre genre, ça peut être homme-femme, mais ça peut être aussi agenre ou non-binaire, qui sont soit entre les deux, soit complètement en dehors. Et en soi, il y a un peu une liberté, on va dire, dans l'identité de ne pas forcément suivre certains modèles, ou de trouver un moyen justement de réussir à s'épanouir aussi, parce que ça peut être très compliqué pour les personnes trans. D'essayer de se forcer à suivre un cadre qui ne leur correspond pas du tout. Et donc voilà, pour les identités, elles sont très multiples. Elles sont sous cette lettre T dans l'ensemble.
D'accord. Ouais, j'imagine que c'est de faire comprendre aux plus jeunes qui auraient peut-être pas l'ouverture d'esprit qu'on obtient grâce à l'âge, mais qu'il y a toute une palette, un éventail de possibilités, que c'est pas juste tout blanc, tout noir, mais qu'il y a plein de nuances de gris et de plutôt de couleurs de l'arc-en-ciel en l'occurrence.
Et c'est vrai aussi que c'est les genres sont malheureusement associés à plein de stéréotypes. Qui peuvent entretenir le sexisme. Donc même dans quelque chose, c'est quelque chose qui peut bénéficier à tout le monde et aux personnes cis, comme on dit, donc c'est les personnes qui sont pas trans, qui n'ont pas fait de transition. Et voilà, donc c'est vrai qu'en soi, mais c'est aussi ce qui peut un peu perturber, c'est que ça bouscule pas mal de stéréotypes. Ou sinon, ça les renforce, ça dépend des personnes.
Ouais.
C'est vrai que on parle beaucoup avec les jeunes de l'assignation au genre et en fait un peu décorréler justement les organes génitaux et sexuels du genre qui est plutôt une construction sociale et du coup distinguer les deux pour justement aussi sortir de cette binarité et cette vision très binaire qu'on a de...
Et maintenant, j'aimerais bien que vous me présentiez un peu comment vous structurez vos interventions en école. Alors, vous intervenez en collège, lycée, c'est
oui,
ça, dans les deux.
Ouais.
En primaire, c'est déjà arrivé?
Non, on a fait le choix de ne pas intervenir en...
J'imagine qu'il y a déjà assez à faire avec les collèges, lycées.
Oui, et puis ça nécessite une adaptation du discours. Et c'est déjà, en fait, collège, lycée, c'est un panel déjà très large,
oui.
Et on adapte aussi beaucoup nos discours en fait selon les classes où on intervient. Moi, les classes les plus jeunes où je suis intervenue, c'était 5e, mais sinon on intervient beaucoup en 4e, 3e et puis tout le lycée. Mais c'est vrai que voilà, ça nécessite beaucoup d'adaptation
du
discours et on a déjà pas mal à faire et en soi en fait on est encore une relativement petite structure. Et voilà, comme on le disait, on était une dizaine de bénévoles bien actifs. Et donc, c'est vrai que, en fait, on a la chance aujourd'hui d'avoir plus de demandes, si on veut, que ce qu'on est en capacité de faire. Donc c'est pour ça aussi on a un enjeu à recruter des bénévoles. Mm-hmm. Je pense qu'il y a beaucoup de choses à faire, encore beaucoup d'établissements à couvrir, et donc ce niveau de classe aussi.
Ouais, c'est ça, il y a déjà assez à faire. Et donc comment se passe une intervention en collège-lycée? Est-ce que vous, autour de la classe, enfin autour de la salle, de la table, donc Léa et Robin, vous avez l'habitude. Toi, Nour, tu es enseignante, mais alors du coup, est-ce que tu prends la parole aussi, tu les accompagnes?
Moi, pour l'instant, j'ai uniquement observé les interventions. Donc, j'interviens moi toute seule dans mes classes, mais pas avec l'association encore.
D'accord. Voilà. Et toi, Maëlle, est-ce que tu as encore déjà eu l'occasion? Tu viens de rejoindre l'association récemment, c'est ça?
Oui, j'ai rejoint en octobre, je crois. Uh-huh. Et j'ai fait deux observations d'IMS, intervention en milieu scolaire. Mais par contre, j'ai pris la décision lors de la dernière IMS de plutôt m'engager dans les ressources et dans d'autres tâches en fait, dont l'association a besoin. Okay. Parce que c'est vrai que pour moi, c'était assez stressant et dur à vivre en fait, comme situation. Et puis je trouve qu'il y a des bénévoles qui le font très très bien, donc voilà, je vais plutôt soutenir sur d'autres plans.
Ce qui est déjà très précieux, parce que pour une asso comme la vôtre, j'imagine qu'il y a aussi plein de choses, voilà, que ce soit la communication, gérer les demandes entrantes. Et donc, on s'éparpille, oui. Mais comment se passe une intervention en milieu scolaire, une IMS du coup?
Alors, premièrement, comme on est une équipe de bénévoles, c'est plutôt les établissements, quelqu'un d'allié qui va nous contacter dans l'établissement. Ça peut être l'infirmière, ça peut être la documentaliste, ça peut être une professeure comme Nour. C'est assez divers finalement, mais c'est à partir d'une demande de l'établissement qu'on propose d'intervenir sur tout un niveau. Donc par exemple, toutes les troisièmes, ou toutes les quatrièmes, ou toutes les secondes, ça dépend. On essaie de faire tout un niveau pour éviter effectivement des disparités au sein même du collège ou du lycée. Ensuite, pour l'instant, nos interventions durent 2 heures et de façon très horizontale, c'est-à-dire qu'on bouscule le format classe qu'on connaît toutes et tous, on enlève les tables, on met des chaises en rond et on fixe collectivement des règles qui sont les suivantes. Un débat, ça s'organise en écoutant chacune et chacun. Nous ne sommes pas des professeurs et la parole est libre, bien sûr, en essayant de blesser personne. Pour éviter aussi d'avoir des discours trop lisses qui feraient qu'au bout des 2 heures, personne n'ait finalement été amené à changer de position ou au moins à réfléchir. Donc c'est 2 heures et à partir de là, on fait confiance aussi à nos binômes ou nos trinômes d'intervenantes-intervenants, avec une règle quand même qui est importante pour nous, c'est de faire en sorte qu'il n'y ait pas 2 mecs 6 qui interviennent. Mmh. Donc le plus de mixité possible aussi au sein de nos équipes de bénévoles pour pouvoir échanger sur toutes les palettes d'identité de genre, d'orientation sexuelle et amoureuse pendant ces 2 heures-là. Et au bout d'une heure, mais c'est très variable, après de nombreux débats, discussions, où on part beaucoup des questions, des interrogations des élèves, vraiment sur une logique vraiment d'éducation populaire, donc de partir de ce qui les interroge, de leur vie quotidienne, de ce qu'ils entendent sur les réseaux et dans leur vie de tous les jours, on leur propose aussi d'écrire sur des petits papiers toutes les interrogations qu'elles et ils ont pu avoir, mais de façon anonyme. Ça peut être des questions intimes sur nous, les intervenantes et intervenants, pour en savoir plus, ça intéresse beaucoup. Ça peut être des questions très larges, ça peut être des questions liées à leurs parents, à leur vie, à ce qu'ils ont pu entendre par-ci, par-là. Et ensuite, on récolte ces petits papiers et là, on lance la 2e heure à partir de leurs questions, à partir de leurs interrogations, pour pouvoir alimenter le débat et finir sur ce schéma de 2 heures, quoi.
Ouais, ce qui est chouette avec ce format, c'est que justement, ça permet d'avoir à la fois de faire circuler la parole, en fait. C'est que donc nous, déjà, en tant qu'intervenants, comme l'a très bien expliqué Robin, l'idée, c'est plutôt qu'on essaye de créer cet espace de discussion. Et nous, on va plutôt guider la discussion, mais en fait, c'est les jeunes qui vont amener les sujets, les 3/4 des sujets. Il y a des sujets sur lesquels nous, on ne souhaite pas faire l'impasse, qui sont importants, mais sinon, les sujets, en fait, viennent des élèves. Donc nous, on essaie de s'assurer, en tout cas, que la parole circule. Et avec les petits papiers, ça permet à ce que ceux qui sont plus timides, celles et ceux qui sont plus timides à l'oral, puissent aussi avoir la parole à l'écrit. Et c'est intéressant parce que souvent, on a des questions, des remarques qui sont assez différentes, en fait, par écrit sur la deuxième heure.
On découvrira certains de ces petits papiers juste après la pause musicale. J'ai juste une petite question avant. Ils sont à peu près combien lorsque vous les mettez en cercle, lorsque vous êtes en cercle comme ça? J'imagine que ce n'est pas toutes les quatrièmes d'un collège simultanément là.
On fait par classe, mais du coup, ça dépend beaucoup de la classe. Il y a des classes avec une dizaine d'élèves, ce qui est beaucoup plus simple pour nous. Mmh. Et il y a des classes avec une vingtaine, voire ça nous arrivait déjà 30 dans une classe, ce qui est plus complexe. Mais du coup, on essaye de mettre en place des outils pour animer de manière un peu différente. En fait, ça nous est arrivé de faire des groupes où parfois, paradoxalement, justement, c'est les grandes classes qui vont être les plus silencieuses. Donc on va essayer de casser un petit peu ce silence en créant un jeu pour libérer la parole, etc. Mmh. Donc on va essayer d'utiliser des outils. Donc on est très adaptable dans notre méthodologie.
J'imagine qu'un grand groupe peut être plus intimidant pour prendre la parole sur ces sujets-là, surtout quand on est jeune comme ça. On fait une petite pause. Qui pour nous présenter le titre que vous avez choisi ce soir?
Alors, c'est une chanson que moi, je trouve assez désarmante de simplicité. C'est une jeune fille qui... Pardon. C'est une jeune fille qui parle à sa mère, qui s'adresse à sa mère et qui lui réclame juste le droit d'être qui elle est. Elle parle également de suicide. Donc, c'est une chanson que je trouve vraiment poignante et... Voilà, et qui décrit très simplement le quotidien des personnes LGBT.
Et l'artiste, c'est
Oshi.
C'est parti.
Au placard, mes sentiments, surtout ne rien dire et faire semblant. Être à part, un peu penchant, au bout du navire, je coule doucement. Maman, désolée, je vais pas te mentir, c'est dur d'effacer tout ce qui m'attire, un peu dépassé par tous mes désirs. Papa, c'est vrai, j'ai poussé de travers, je suis une fleur qui se bat entre deux pierres, j'ai un cœur niqué par les bonnes manières. Est-ce qu'on va un jour en finir avec la haine et les injures? Est-ce que quelqu'un viendra leur dire qu'on s'aime et que c'est pas en pur? Pour pas que je pense à en finir, beaucoup m'ont donné de l'allure. Pour le meilleur et pour le pire, je prendrai ta main un jour, c'est sûr. Il n'y a pas d'amour sans sûr. Il n'y a que de l'amour sincère. Travestir qui je suis vraiment, faire taire la rumeur, les mots sont tranchants. Se mentir à s'arracher les dents, il cherche un docteur, on souffre sans être souffrant. Maman, désolée, j'ai pris tes calmants. C'est pas que je voulais partir, mais c'est violent. Je voulais juste dormir un peu plus longtemps. Papa, t'inquiète, j'ai appris à courir. Moi aussi, je veux une famille à nourrir. On s'en fout près de qui je vais m'endormir. Est-ce qu'on va un jour en finir avec la haine et les injures? Est-ce que quelqu'un viendra leur dire qu'on s'aime et que c'est pas impur? Pour pas que je pense à en finir, beaucoup m'ont donné de l'allure. Pour le meilleur et pour le pire, je prendrai ta main un jour, c'est sûr. Est-ce qu'on va un jour en finir avec la haine et les injures? Est-ce que quelqu'un viendra leur dire qu'on s'aime et que c'est pas impur? Pour pas que je pense à en finir, beaucoup m'ont donné de l'allure. Pour le meilleur et pour le pire, je prendrai ta main un jour, c'est sûr. Il n'y a pas d'amour sans sûr. Il n'y a que de l'amour sincère.
Les enfants, c'est pour un homme et une femme.
Il n'y a pas d'amour sans sûr.
Ce n'est absolument pas pour des homosexuels. sexuel.
Il n'y a que de l'amour sincère.
De plus en plus de gays à la télé, donc les gens se posent des questions sur eux-mêmes. Ça se propage en fait, comme une maladie qui se propage.
Et puis alors avec des chiens, puis avec des chats, des singes, et puis quoi après?
Alors disons que ça fait partie du mal parce que ça ne va pas dans le sens de l'amour qui a été donné par Dieu entre un homme et une femme.
Vous êtes sur Radio Galère au 88.4, nous sommes en direct, vous écoutez La Forêt des Possibles et ce soir nous recevons l'équipe de Pape Fier, une association marseillaise qui intervient en milieu scolaire pour accompagner les jeunes, notamment les jeunes LGBTQIA+, vers leur épanouissement. Et en première partie, nous avons découvert le fonctionnement de l'asso, comment ils et elles interviennent en collège lycée, et vous nous avez mentionné ces petits papiers qui étaient écrits par les élèves pour permettre à celles et ceux qui sont plus timides à l'oral de s'exprimer à l'écrit. Lisons ces petits papiers. Qui commence?
Alors, il y a un premier papier que je vais lire qui est « À quel âge avez-vous su que vous étiez gay ?» Et je ne sais pas si j'en lis un autre.
Ouais, assez similaire. Comment vos familles ont réagi suite à votre coming out? C'est vrai qu'on a souvent des papiers qui nous interpellent personnellement, aussi parce qu'on les invite à le faire, parce que c'est une des rares occasions pour eux souvent de pouvoir adresser des questions à des personnes concernées, et qu'en plus, comme on l'a dit tout à l'heure, on a un enjeu à donner à voir des parcours de vie aussi positifs, et montrer que justement on peut être LGBT et épanoui. Et du coup, on les invite à nous interpeller aussi personnellement, et on témoigne aussi personnellement de nos vécus. Et ce qui permet aussi, ce qui est très chouette et très, très drôle, c'est que souvent en fait... quand il peut y avoir des propos qui sont assez durs, ça nous arrive d'avoir des propos durs en intervention, à partir du moment où on le ramène à du personnel, à partir du moment où on va leur dire « en fait, moi je suis concernée, moi je suis bi, donc dans mon cas, ou ma collègue va dire qu'elle est lesbienne, ou mon collègue va dire qu'il est gay », tout de suite ça va les faire réagir. Et je trouve ça très drôle, justement, j'ai un collègue qui... Quand il dit qu'il est gay, ça les fait tout de suite réagir. Ils disent « mais ça se voit pas !» et du coup c'est drôle parce que ça permet de rebondir dessus, de contribuer à cette déconstruction, justement, des clichés, et voilà.
Oui, c'est marrant, pourquoi tu t'attends à ce que ça se voit en fait?
Okay. Du coup on travaille aussi sur cette notion de ce qu'on montre, ce qu'on donne à voir et ce qu'on est, la distinction aussi entre les deux, etc.
Mais c'est vrai que chaque bénévole choisit effectivement de raconter ou pas son histoire. Mais il est vrai que quand on raconte notre histoire, souvent après une heure d'intervention, on sent aussi les regards changer, parce qu'on montre effectivement des gens assez épanouis pour venir en discuter collectivement avec des élèves aujourd'hui en 2024. Donc ça veut dire qu'on est quand même plutôt à l'aise finalement avec nos identités, et c'est super. On montre aussi notre parcours qui n'a pas été facile, souvent avec des coming out tardifs, ou alors le fait de ne pas le dire à ses proches, à sa famille, parce qu'on a peur. Et le fait de dire que ça s'est bien passé, parce que notre entourage était OK avec ça. Ça peut aussi changer la vie des jeunes concernés, mais ça peut aussi faire réagir des jeunes qui se sentent hétéros, mais qui pourraient aussi être des vrais alliés par rapport à leurs potes, par rapport à leurs frères, leurs sœurs. Et ça, c'est super important. Si au bout de 2 heures, on a réussi à faire bouger 2-3 lignes sur « en fait, j'ai un rôle à jouer, que je sois hétéro ou queer », là, on a réussi quelque part à faire ce qu'on voulait, quoi.
C'est vrai qu'on travaille beaucoup sur la notion d'allié. Tout à l'heure, on parlait de l'épanouissement. Et en fait, dans l'épanouissement, il y a aussi le fait d'avoir un entourage qui est tolérant, qui est dans l'acceptation, dans le respect. Et en fait, du coup, c'est tout à fait ça. C'est-à-dire, nous, on s'adresse, principalement, en tout cas, on essaie de ne pas perdre de vue des personnes concernées dans la salle, parce qu'il y en a toujours. Mais on travaille aussi beaucoup sur la notion d'allié. Donc c'est, être allié, c'est pas juste dire ils font ce qu'ils veulent, ça les concerne, et moi je vis ma vie. Mais c'est aussi comment être une oreille pour une personne concernée, que si la personne elle s'adresse à nous pour le raconter, c'est qu'elle vient chercher du soutien, c'est qu'elle avait notre confiance. Donc c'est voilà. Donc on va essayer de travailler sur cette notion là de tolérance, d'acceptation de l'autre, etc.
Et du coup de faire d'embarquer les personnes qui sont réceptives au message pour qu'elles soient de passer de l'indifférence à alliées, donc cette posture où on est un vrai soutien et on se sent aussi concerné par la cause, même si soi-même on n'est pas LGBTQIA+.
Et on travaille aussi beaucoup cette notion-là, en fait, en lien avec les discriminations. Parfois, on va passer volontairement pas mal de temps sur la notion de discrimination et balayer les différents types de discrimination au sens large, parce que ça permet que chacun puisse s'identifier à une discrimination qu'il ou elle a vécue. Les outils qu'on va leur transmettre, c'est des outils qu'ils peuvent appliquer aussi à ces autres cas de figure, en fait. Ouais. Ça permet ce que chacun en fait comprenne et puisse aussi un petit peu transposer des vécus personnels sur le fait que il y en a d'autres en fait, ils peuvent se sentir rejetés ou avoir peur de montrer celui ou celle qu'il est parce que à cause du regard des autres et du coup ils peuvent comprendre ça, quoi.
Ouais. Et du coup être plus en confiance et épanoui pour pouvoir affirmer avec fierté qui ils et elles sont. Ouais. Un autre petit papier.
Si mon frère m'annonce qu'il est gay, ça va rien changer à ma vie. J'aime bien ce petit papier puisqu'on est on essaye de montrer aux élèves qu'on est tous et toutes responsables du bonheur des uns et des autres. Et ce papier, il me fait penser aussi à une intervention de l'année dernière, où, quand Robin était là en classe, où une jeune fille disait que justement, si son petit frère venait lui dire ça, elle serait obligée de le rejeter, parce que c'est comme ça qu'elle a grandi. Mais en même temps, on sentait qu'elle n'était pas complètement d'accord avec ses propos, et il y a vraiment quelque chose qui s'est passé pendant cette intervention. Donc voilà, ça me fait penser à elle. J'ai l'impression que pour cette jeune fille, en tout cas, il y a eu quelque chose, il y a une vraie réflexion qui a commencé.
Ouais. Voilà. Là, du coup, ce que j'ai du mal à comprendre avec ce message, c'est ça ne changera rien pour moi. Est-ce que du coup, pour rebondir avec ce que tu disais juste à l'instant, Léa, est-ce que ça veut dire ça ne changera rien, donc je l'accepterai, je l'aimerai de la même façon, ou bien ça ne changera rien, je ne serai pas une alliée, je ne serai pas dans le soutien pour autant, c'est juste il fera sa vie et il continuera ainsi.
C'est fréquent en fait que dans les petits papiers, on ne sait pas forcément ce qui est l'intention, ce qui se cachait derrière, ou ce qu'il ou elle a souhaité dire. Et du coup, c'est vrai que dans les outils qu'on utilise, on essaye aussi de travailler justement sur comment ne pas interpréter les propos. Et du coup, on va souvent renvoyer la question aux jeunes dans la classe et en fait, comment on peut le comprendre, qu'est-ce qu'on peut aller chercher comme notion derrière, pour essayer de ne pas rentrer dans...
Oui, de ne pas avoir une posture de jugement quelque part et de justement laisser cours à toutes les interprétations qui sont possibles dans ce cas de figure. Ouais. Un autre petit papier.
Alors, il y en a un tout frais qui date de hier matin. Ce sujet me fait du bien d'en parler et peut aussi me mettre mal à l'aise parce que je suis une fille et j'ai été avec une fille. Et après, j'ai été avec un garçon. Ça m'enlève un poids. Et je trouve qu'il est pas mal en une phrase parce qu'il pointe bien, nous, les défis qu'on a de pouvoir libérer une parole sur ces sujets-là pour savoir ce que les élèves vraiment pensent, sans mettre mal à l'aise les premières et les premiers concernés et sortir de la classe en se disant on n'a pas aggravé une situation de harcèlement par exemple, et au contraire on a proposé des modèles d'épanouissement plus intéressants. Donc celui-là, je trouvais ça intéressant, c'est à la fois honnête et on sent que sur cette intervention elle va peut-être être un peu en retrait, mais en même temps ça va la faire beaucoup réfléchir. Et si nous, quatre, et même plus largement tout le monde s'identifie à ça, on se dit que si on avait eu ce type d'intervention au collège, Moi, peut-être que j'aurais été beaucoup en retrait, voire même j'aurais joué l'hétéro un peu mascu pour bien faire en sorte que personne n'ait aucun doute. Mais après, ça m'aurait tellement aidé, tellement aidé. Donc voilà, ça, je trouve que ce petit mot, il est assez représentatif de ce que peut ressentir une personne concernée.
Ça fait du bien de l'entendre, mais en même temps, ça me met mal à l'aise. C'est vrai que c'est assez contradictoire. On a une question en régie de Mathieu. On t'entend pas, Mathieu.
Là, est-ce que c'est vous m'entendez? Ouais, ouais. Oui, tout à fait. Déjà, bravo pour les actions que vous menez, pour le travail que vous faites. Je suis admiratif. Moi, j'ai une petite question par rapport à donc, ces petits mots que vous nous lisez. Bon, on en a un petit peu discuté tout à l'heure. Il y a des mots qui sont plus ou moins évidents que d'autres à lire. Et donc, qui peuvent faire référence à de l'homophobie. Hein. Clairement, je ne jette pas de pavé dans la mare, je pense, en disant ça. Comment vous faites pour gérer au niveau pédagogique quand ça se passe comme ça, quand il peut y avoir des choses homophobes ou des remarques de ce type?
Ce qui est important, déjà merci pour la question. C'est vrai qu'en effet, on a aussi des papiers et même des prises de parole hein, qui peuvent être très, très difficiles et très, très crues, très franches. Ce qui est important, c'est que dès le départ, on leur dit bien que la parole, elle est... qu'ils peuvent tout dire avec cette intention que justement on peut pas creuser des sujets s'ils se censurent et si du coup ils disent pas ce qu'ils pensent réellement. Donc on sait que du coup de ce fait on va libérer une parole homophobe aussi, mais on essaye de l'accueillir pour ensuite travailler le sujet avec eux. Et qu'est-ce que je voulais dire d'autre? Pardon, je me suis perdue dans
Robin
mes pensées.
Tarescos.
Mais par contre, ouais, mais ça se passe comme ça en IMS, hein, en intervention milieu scolaire. Souvent, on fait des appels à l'aide là. Aïe, je ne sais plus quoi dire. S'il te plaît, Léa, aide-moi. Voilà, là, c'est à peu près ça aussi. Non, mais après, on, par exemple, hier matin, désolé, hein, je reviens là-dessus, mais c'est aussi des situations vécues. La professeure nous a dit en amont qu'il y avait un des élèves qui était harcelé pour ces questions-là depuis la semaine dernière. Typiquement, là, on a reçu des petits papiers très durs. On a fait le choix de ne pas les lire.
D'accord.
Voilà. C'est plutôt rare parce que souvent, on essaie de faire en sorte de tous les lire. Mais là, on a fait le choix de protéger avant tout les personnes concernées et donc de pouvoir ne pas les lire, de faire ce choix-là, quoi. Donc, ça peut être des choix aussi comme ça en fonction de comment on sent la classe par rapport à l'animation.
Ça me revient à ce que je voulais dire. C'est que, en fait, pour nous, c'est important, du coup, bon, on sait qu'elle va arriver, cette parole, mais c'est important qu'elle ne prenne pas trop de place. C'est que souvent, il y a une sorte d'engrenage, c'est qu'une fois que la parole homophobe est libérée, il y a une sorte de... Quoi, ça peut surenchérir, etc. Et du coup, il y a un gros enjeu à faire en sorte qu'il y ait un minima, un équilibre dans la parole qui circule et qu'il y a aussi une parole positive qui arrive à émerger et qui laisse sa place et voir qu'elle puisse prendre le dessus. Donc voilà, c'est plutôt dans...
Ouais. Ça doit être un numéro d'équilibriste pour accueillir ces paroles parce que, comme vous l'avez introduit, la parole est libre, mais aussi ne pas donner trop de place à ces paroles qui sont discriminantes, qui sont parfois homophobes. Oui, j'imagine que c'est un sacré numéro d'équilibriste pour garder le fil et aussi pour récupérer l'attention, pour pas que les jeunes s'éparpillent sur ces sujets-là et du coup les ramener sur les sujets pour lesquels ils sont réunis ce jour-là. Est-ce qu'on avait d'autres papiers?
Oui, là, il y en avait sur... donc, je les lis, pardon. C'est « Pourquoi vous faites ça ?» Et un autre papier, c'est « Pourquoi faire ? Une femme doit être avec un homme, c'est logique, non ?» Donc, c'est vrai que c'est des papiers qui reviennent souvent, où on nous questionne pourquoi on intervient. Et du coup, on leur envoie la question, pourquoi à leur avis on est là. Et du coup, c'est vrai que ça nous permet de qu'on essaie de revenir toujours à cette notion de tolérance vis-à-vis de l'autre, du respect vis-à-vis de l'autre, l'acceptation de l'autre, la notion d'égalité, etc. Et principalement sur ces sujets-là, en fait. Parce que souvent, voilà, il y a cet imaginaire où il nous interpelle souvent sur le fait qu'on ferait qu'on chercherait à les convaincre ou qu'on risquerait, voilà, mais ça, souvent, on en rit ensemble, on essaie d'en rire avec eux, de leur dire, bah, est-ce que, à votre avis, après 2 heures d'intervention, vous allez changer d'orientation sexuelle ? Non. donc, on n'est pas là pour... ça ne se passe pas comme ça. Mais voilà, du coup, bon, on essaie d'en rire avec eux quand... Voilà, ouais. Ces paroles-là.
Moi, j'avais une question sur à quoi ressemblent les cours de collège-lycée de nos jours. Bon, c'est vrai que nous, à l'époque, enfin, je ne sais pas quel âge vous avez, mais sensiblement le même âge, je pense, dans la trentaine. Nous, quand on a grandi, on n'avait pas les smartphones, on n'avait aussi pas l'accès à l'information sur les identités de genre, etc. Et dans les témoignages que nous avons reçus ce soir, beaucoup ont dit si j'avais eu des personnes qui étaient venues en milieu scolaire pour m'en parler, ça m'aurait aidé, ça m'aurait soulagé. Voilà, quelle est votre vision sur la jeunesse en milieu scolaire de nos jours, en prenant en compte les différences que nous avons connues ?
Bah alors moi qui n'ai du coup jamais quitté l'école, j'ai l'impression que ça n'a pas tant changé que ça. Enfin le collège en tout cas, parce que je n'ai enseigné qu'au collège. Le groupe est très important, on se définit forcément par rapport à un groupe et finalement c'est forcément du coup la norme qui va l'emporter,
donc faire c'est comme les autres,
voilà, ouais. Exactement. Et ce qui a changé finalement, c'est plus le rapport que les adultes ont avec les élèves, où on est beaucoup plus conscient de l'épanouissement des élèves, de la nécessité d'avoir confiance en soi, d'instaurer un cadre bienveillant dans lequel les élèves peuvent s'épanouir, justement. Donc c'est plutôt ça qui a changé, parce que sinon, moi personnellement, en tout cas, le collège, ça a été très violent pour moi, et je trouve que ça allait encore énormément. Les élèves sont vraiment pas tendres entre eux. Et bien sûr que leurs références, leur façon de communiquer a complètement changé, mais finalement, dans le fond, c'est toujours un milieu très violent.
D'autres points de vue ?
Non, moi je trouve que c'est assez représentatif de ce qu'on a pu vivre finalement. C'est du coup des classes avec des effets de groupe, où finalement c'est toujours bien vu de bien montrer qu'on est dans les normes qu'on pense être importantes, ou en tout cas dominantes. Donc ça, je vois des jeux de rôle. Mais en même temps, il y a aussi cette force de la jeunesse aussi à réfléchir, et je suis toujours critique des personnes qui disent « Ah non, mais les jeunes d'aujourd'hui, ils savent plus penser, ils savent plus écrire. » En fait, non, y a, dans les débats qu'on peut avoir avec ces jeunes-là, on a aussi cet esprit de soit de contradiction, soit de comprendre comment ça se passe, soit d'avoir leurs propres opinions. Et je pense qu'il faut faire attention aux adultes qui jugent un peu trop vite les jeunes avec des rapports condescendants. Et nous, vraiment, ce qu'on essaye de faire, c'est complètement l'inverse. Si on pense que les jeunes peuvent être épanouis, c'est parce que ils et elles en sont capables. Voilà. Et ça, c'est vraiment important. Et je l'ai ressenti dans les classes qu'on a pu, sur lesquelles on a pu agir récemment.
Ça me fait penser à la parole d'un enseignant qui avait observé du coup une intervention et qui nous disait justement qu'il était fier de voir ses élèves intervenir comme ça dans un débat, et que justement ils se rendaient compte qu'ils avaient rarement cet espace-là d'avoir un espace de discussion, d'échange, où ils peuvent défendre un point de vue, argumenter, etc. Et en fait dans le schéma de l'école, c'est très frontal, et en fait du coup il n'avait jamais eu l'occasion de voir ses élèves échanger, débattre comme ça. Il avait trouvé ça trop chouette, et c'est vrai que je pense que c'est aussi une des forces de notre de ces interventions, c'est qu'en fait on crée cet espace de discussion. Ce qui peut-être a changé, ou du moins je me pose la question, mais c'est vrai que très souvent en fait quand ils nous interpellent par rapport à ce qu'ils ont vu, et du coup on voit qu'ils sont quand même très influencés par ce qu'ils voient sur les réseaux. Et je pense que nous à l'époque on se documentait aussi, on échangeait beaucoup, mais c'était peut-être plus notre entourage immédiat, ou avec, on était beaucoup influencés aussi par nos parents. Mais là, du coup, on constate aussi, et malheureusement, qu'il y a beaucoup d'informations qui circulent, et notamment de la désinformation, des choses qui viennent faire le buzz. Du coup, ils nous interpellent beaucoup là-dessus. Et ça dessert énormément nos propos. Et c'est très difficile. Quand on en discute, on essaie d'aller justement creuser qu'est-ce qu'il y avait derrière cette vidéo, etc. Et d'où elle vient, cette vidéo, etc. pour essayer de comprendre...
C'est vrai que j'aurais tendance à croire que maintenant qu'ils ont, ils et elles ont tous un smartphone dans la poche, c'est un puits de connaissances et de savoir qui s'offre à eux et du coup ils peuvent savoir, avoir accès à des personnes LGBTQIA+, qui sont posées les mêmes questions que eux qu'ils se posent. Mais en fait, ouais, c'est ça. Et on a aussi beaucoup de contenus qui sont de plus en plus extrêmes, quelque part, et qui participent à polariser la société. Ouais. Ok. Ouais. Je vois l'heure qui tourne. Ce n'est pas tout à fait fini, parce que ce que je ne vous ai pas dit, c'est qu'on a une question surprise pour la fin. On a l'habitude de poser cette question à tous nos invités. Et pour cela, je vais vous inviter à fermer les yeux, à bien vous installer dans votre chaise, décroiser les jambes, ancrer les pieds au sol, à prendre une grande inspiration. Et hop, vous voilà catapulté en 2030. Vous êtes toujours à Marseille et la ville a réussi sa transition écologique et sociale. Que voyez-vous ? Autour de vous, quelles sont les odeurs? Avec qui êtes-vous? À quoi ressemble cette nouvelle société? À quoi ressemble l'école en 2030? Quand vous ouvrirez les yeux, vous serez de retour parmi nous dans le studio de Radio Galère en 2024. Et je veux bien que vous nous racontiez ce que vous avez vu. Maëlle, t'es le premier à avoir ouvert les yeux.
Alors j'ai surtout entendu en fait ce que ce serait et donc en fait je voyais surtout beaucoup de gens dans les espaces publics de tous les âges, enfin un peu comme à Marseille en soi, de plein de gens très différents qui se déplacent. Je voyais aussi beaucoup de soleil et pas mal de ciel en fait, enfin, le fait qu'on ait une vue peu limitée. Et plein d'arbres, et surtout j'entendais surtout des enfants qui rient et qui s'amusent, et puis un brouhaha de gens qui parlent, peut-être des oiseaux ou des bruits d'arbres, mais moins, enfin pas du tout le même environnement sonore.
C'est l'absence de voitures, de klaxons, de scooters, c'est ça qui manque, sinon ça ressemble un peu à Marseille ce que tu as décrit. Et toi Léa, tu es la deuxième à avoir ouvert les yeux.
Ça ressemble pas mal, mais c'est vrai que j'ai entendu beaucoup de... ou je visualisais en tout cas beaucoup d'échanges, beaucoup de discussions. Et pour moi, c'est un peu... l'espoir que j'ai, c'est justement qu'on arrive tous à se rencontrer et à échanger et à discuter avec tous nos parcours et nos horizons différents.
De différents horizons réunis dans cette ville qui hospitalière aussi, qui accueille des gens de partout. Marseille. Et toi, Nour, qu'as-tu vu lors de ce voyage?
J'ai vu une ville où Pape Fier n'aurait plus besoin de venir faire des interventions en milieu scolaire parce que tout le monde... l'association aurait réussi à détruire la norme et ce discours qui nous empêche de penser de façon singulière et individuelle. Voilà. Et puis du coup, on pourrait consacrer tout le temps qui reste à faire des choses plus constructives.
Super, merci Nour. Et pour finir, Robin ?
Alors moi, je pense que j'étais influencé par ce qu'on s'est dit depuis une heure, mais j'ai vu toutes les classes marseillaises, des collèges, des lycées, où en fait... on pouvait parler de ces sujets-là assez librement et c'est pas si utopique que ça puisque normalement tous les élèves de France aujourd'hui devraient avoir ces séances-là. C'est pas le cas aujourd'hui, donc si on arrive en 2030 à avoir des discours apaisés et à montrer que c'est aussi comme ça qu'on peut avoir des enfants et des jeunes libres et épanouis, voilà, c'est ça mon Marseille de 2030, c'est que tous les établissements scolaires de tous les quartiers puissent aussi discuter de façon apaisée de qui on peut aimer, de qui on peut être, et de quel genre, à quel genre on peut s'identifier, quoi.
Voilà. J'aime beaucoup l'utilisation du mot apaisé que tu en fais. Et ça fait écho avec le terme épanouissement, fierté qu'on a pu aborder lors de cette belle émission. Merci beaucoup pour cette émission. Est-ce que je vous laisse le mot de la fin ?
Oui, on voulait faire un petit appel à bénévoles parce que vous avez bien compris que nos forces sont réduites, mais que les enjeux sont énormes. Donc n'hésitez pas à nous rejoindre. Alors bien entendu, si vous partagez nos valeurs, voilà, donc n'hésitez pas, enfin, si vous pensez qu'il n'y a pas de racisme en France, qu'il n'y a pas de violence policière en France, qu'il faut un féministe qui exclut les femmes trans, ne venez pas chez nous. Mais sinon, sur ce socle commun, rejoignez-nous. Je crois qu'on a un prochain apéro.
Le 12 décembre.
Le 12 décembre. Et on peut vous
à
contacter. 18h,
et vous pouvez nous suivre sinon sur les réseaux. On est sur Instagram et Facebook.
On se fera un plaisir de relayer
pas
ça.
Peu fier.
Merci beaucoup.
Merci
à vous. On rend l'antenne. Bonne soirée à
Merci.
Tous.
Merci.
Merci.